Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, tous les jours de la semaine très tôt à la radio ou quand vous voulez en podcast. Tous les vendredis, il est question de l'actualité de la bande dessinée sous toutes ses formes et à travers tous ses genres. Mais aujourd'hui, puisqu'on est en plein festival d'Angoulême, on va parler des statues des dessinateurs. Émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la prise de son Alain Joubert. On dit que la bande dessinée est en train de vivre un nouvel âge d'or. En France, environ 5000 titres paraissent chaque année quand il n'y avait que 500 nouveautés à la fin des années 70. On dit aussi que dans un marché en déclin depuis 10 ans, la bande dessinée et la littérature jeunesse sont les seuls domaines florissants du marché du livre, avec des ventes en croissance continue. Tout ceci, ma foi, est vrai, et d'ailleurs on voit de plus en plus d'auteurs de bandes dessinées devenir aussi populaires dans le champ de la création culturelle que les cinéastes, les écrivains, même les rappeurs. On rappelle à juste titre que le 9e art, l'expression 9e art a été inventée d'ailleurs en 1964 par le critique de cinéma Claude Bailly. On dit donc que le 9e art est en interaction permanente avec les autres arts et interagit avec bonheur avec d'autres expressions artistiques, le cinéma, le film d'animation, le jeu vidéo, les arts plastiques, la littérature. Et cette année, 2020, a été décrétée par le ministère de la Culture année de la bande dessinée. À cet effet, des manifestations seront organisées un peu partout dans notre grand village gaulois pour consolider cette réussite exceptionnelle de l'exception culturelle française. Mais, eh oui, il y a un mais derrière ce tableau idyllique, il y a une réalité qui ne l'est pas du tout. Les auteurs de bandes dessinées, dans leur écrasante majorité, sont de plus en plus précarisés. Une étude publiée par la Charente Libre donne le vertige. 150 auteurs de bandes dessinées sur les 200 recensés à Angoulême sont au RSA. Comment expliquer ce paradoxe entre un secteur qui se porte de mieux en mieux et des auteurs qui s'appauvrissent de plus en plus? Et pourquoi y a-t-il de plus en plus de dessinateurs et de dessinatrices? Deux bandes dessinées récemment publiées nous aident à y voir plus clair. Un auteur de BD en trop est la bande dessinée de Daniel Blancou, édité par Sarbacane, décrit sur le mode de la dérision les travers du milieu de l'édition quand Rivière d'encre d'Étienne Appert, édité par la boîte à bulles, tente d'expliquer d'une manière poétique et tout aussi documentée pourquoi, malgré tout, l'acte et la passion de dessiner persistent.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour à Étienne Appert et Daniel Blancou, mes invités ce matin pour un réveil culturel spécial Angoulême. Bon, alors en ce qui concerne le statut des auteurs, on ne va pas faire semblant de découvrir aujourd'hui l'étendue de la crise. Il y a 3 ans déjà, les états généraux de la bande dessinée avaient tiré la sonnette d'alarme en déclarant que 36% des auteurs de bande dessinée vivent sous le seuil de pauvreté. Et on connaît un peu les causes, hein, surproduction, concurrence, toute puissance des éditeurs. Mais s'il fallait vous donner à vous la parole, Étienne Appert et Daniel Blancou, avant de parler de vos bandes dessinées, au niveau social, si j'ose dire, comment ça va? Est-ce que vous vivez de votre métier? Un peu, presque, pas encore ou pas du tout? Allez, on commence par vous, Daniel Blancou.
Alors moi, je vis de mon métier, je vis du dessin, pas spécifiquement de la bande dessinée. Mais ça reste, c'est vrai, un métier qui est toujours difficile, toujours précaire, où il faut que les contrats se renouvellent sans cesse.
Quand vous faites pas de bande dessinée, par exemple, vous faites quoi?
Ben, j'enseigne, je fais des dessins pour la presse, je vends des dessins.
Et vous, Étienne Appert, vous qui aviez un vrai métier?
Ah oui, j'ai eu un vrai métier autrefois, mais ça fait 10 ans que je ne fais plus que du dessin.
Non seulement un vrai métier, mais un métier plutôt bien rémunéré.
Oui, oui, plutôt bien rémunéré. Je faisais du conseil en management, donc oui, j'étais bien intégré, tout ça. C'est la passion du dessin qui m'a poussé à me lancer. Je ne vis plus que du dessin depuis 10 ans. Mais clairement, c'est pas les ventes de mes livres, c'est pas voilà, ça n'est pas le livre dont nous allons parler qui me permet de vivre. Ce qui me permet de vivre, c'est de dessiner dans des entreprises, en direct, dans des séminaires. Et le résultat, c'est qu'un livre comme celui que je publie là, il m'a fallu 7 ans, je crois, pour le faire. Donc, j'avoue que pour le prochain, j'aimerais bien pouvoir aller plus vite. Mais aujourd'hui, c'est sûr que le modèle économique de la bande dessinée fait que c'est vraiment très difficile de financer la création.
Ouais. Alors, la situation est dramatique, mais elle vous a inspiré une bande dessinée très drôle. Daniel Blancou, un auteur de BD, entre autres, c'est chez Sarbacane. Alors, ça se présente comme une autofiction. En fait, c'est une parodie d'autofiction.
Je me suis inspiré de tout ce qui compose mon quotidien pour en tirer une fiction et j'ai poussé le bouchon vraiment loin pour en rire. Parce que bon, on dit que les auteurs sont dans une situation précaire, mais je crois que ça concerne énormément de métiers par ailleurs. On parle de l'ubérisation de la profession, quel que soit finalement le domaine. Donc oui, enfin moi je trouve qu'il y a des raisons de se plaindre, mais pas de se plaindre parce que on est auteur de bande dessinée. Ce serait un peu, je trouve, un peu indélicat. Et puis à mon sens, je préfère être pour des choses positives, être pour que les auteurs vivent de leur création, qu'ils touchent une juste rémunération de leur travail, pour la culture en général. C'est quand même plus motivant que d'être contre ceci ou cela.
Alors, vous êtes de Strasbourg?
Tout à fait.
Vous habitez, vous vivez à Strasbourg. S'il fallait parler un peu de votre parcours, Daniel Blancou, comment êtes-vous arrivé à la bande dessinée, à cette envie de faire de la bande dessinée?
Alors, je crois qu'il faut remonter très loin. Quand j'étais ado, quand j'ai eu 17 ans, je gagnais le prix concours scolaire à Angoulême. Alors, de seul coup, voilà, j'étais invité au salon. Il y avait une remise des prix. C'était très valorisant, mais en même temps, c'était très... Il y avait quelque chose d'un peu enfermant en me disant « Ah, tu es deux pour la BD, tu vas faire de la bande dessinée. » Et moi, à 17 ans, je voulais que tout soit possible. Et j'ai mis des années avant de m'avouer à moi-même que c'est ce que je voulais faire. Un peu par provocation, dès qu'on me disait « Ah, tu es doué par la BD, tu vas faire de la BD », je disais « Non, pas forcément ».
Vous vouliez faire de la bande dessinée parce que vous étiez lecteur de bande dessinée ou parce que vous aimiez dessiner ?
Ah ben, tout commence évidemment quand on est lecteur. Ouais. Moi, j'ai des souvenirs, je savais pas encore lire, mon grand frère me lisait Lucky Luke. J'ai toujours lu de la bande dessinée, ce qui m'a amené au dessin. Et le cap de raconter des histoires, il faut quand même déjà, pour moi, une certaine maîtrise graphique. Pour vraiment commencer à se dire, oui, j'aime raconter des histoires. Donc c'est un processus qui est long pour moi et qui
a mis plusieurs années. Ça passe par des études, ça passe par une formation particulière.
Moi, je pense qu'il faut être les deux, c'est-à-dire que, en fait, j'ai fait des études à Strasbourg, aux Arts Déco. Mmh. Même quand on fait des études, il faut apprendre par soi-même, il faut continuer, parce qu'après, la profession dure 20, 30, 40 ans, si tout va bien. Il faut continuer à apprendre, à être curieux, sur plein d'aspects.
Alors, si votre double en papier, votre frère de fiction, c'est-à-dire le Daniel d'un auteur de BD en trop nous fait rire, c'est qu'il parle effectivement du milieu de la bande dessinée, des rapports entre les dessinateurs entre eux, de la panne d'inspiration, de la peur de la panne d'inspiration, mais c'est aussi un rapport aux éditeurs.
En fait, là, ce qui pousse l'auteur dans ses retranchements jusqu'à la catastrophe, c'est pas tellement la panne d'inspiration que le manque d'argent, parce qu'à un moment, il se retrouve dans ma bande dessinée avec un contrat qui est annulé. Mmh. Et il se dit, bah mince, il faut que je rebondisse, j'ai encore 2-3 dessins. Et c'est des situations dans lesquelles il m'est arrivé de me retrouver, évidemment.
C'est-à-dire en proposant des sujets qui n'étaient pas, il faut reprendre la terminologie officielle, fédérateur ou grand public?
Non, parce que si on commence à se soucier d'être grand public, d'après moi, on est foutu au point de vue créatif.
Qu'est-ce qu'on vous a dit quand on vous refusait vos projets, Daniel Blancou?
Ah ben alors, au tout début, je me souvenais que j'avais fait proposer une bande dessinée humoristique avec des gags. Et puis un éditeur m'a dit « Ah, on a bien ri !» Et vraiment, il avait l'air enjoué. Mais il m'a dit « Ah, ce serait difficile à imposer commercialement. » Et je me suis dit « Bah, il faut que j'attende qu'il y ait un coup de cœur d'un éditeur. » Et un jour, c'est arrivé et puis j'ai pu démarrer.
Et votre idée, c'était d'éditer vos histoires, vos bandes dessinées, Daniel Blancou, ou d'être reconnu pour votre talent de dessinateur et de raconteur d'histoires, ou quand même l'idée d'être populaire était là?
Non, j'ai jamais espéré être populaire. D'ailleurs, je doute beaucoup.
Même dans vos rêves les plus fous?
Je me souviens pas de mes rêves au petit matin. Mais je doute énormément de mon travail, de mon dessin, du niveau que je propose dans mes albums. Ce qui me pousse aussi à travailler, à chercher toujours des choses différentes, des nouveaux angles de travail. Donc l'idée d'être populaire, évidemment, ça vient très loin, mais quand même, fondamentalement, on a tous envie quand même d'être appréciés. Mais je crois que ça dépasse le fait d'être auteur.
Mais être apprécié à la manière, puisque vous êtes de Strasbourg et que vous avez fait la même école que Blotch, c'est-à-dire arriver à un stade où on est reconnu par le milieu, on est reconnu par les journalistes à la manière de Blotch, ou une reconnaissance des lecteurs, c'est-à-dire une reconnaissance commerciale?
Cette bande dessinée, c'est une parodie. Donc je pousse mon personnage vraiment dans la caricature. Je me moque des aspirations que pourrait avoir un auteur. Et puis aussi, quand j'écris, des fois, j'essaie d'oublier que j'ai donné mes traits au personnage. Pour moi, se servir de mon quotidien, c'était plus une facilité pour être sûr de ce dont je parle, pour être un peu plus juste.
Et le rapport que vous entretenez avec les dessinateurs, hein, parce qu'il y a des scènes très drôles, et des scènes qu'on a vécues, hein, c'est-à-dire des scènes de signature dans des festivals où un auteur est très sollicité, quand l'autre, juste à côté, attend des heures et des heures et des heures avant que quelqu'un ne s'approche de sa pile de livres sans acheter finalement la bande dessinée. Comment on le vit, ça?
Après, moi j'admets qu'il y ait des gens qui n'aiment pas mon travail. J'ai même des amis proches, des fois, qui n'apprécient pas. C'est pas un problème. La difficulté aussi, c'est que quand des fois il y a personne qui vient en signature nous voir, c'est aussi le fait d'une organisation plus globale de festivals qui sont pas toujours bien menés, contrairement à certains qui sont remarquables. Et du coup, on se retrouve embarqué dans une galère. On se dit, mais pourquoi je suis venu un week-end loin de chez moi, loin de ma famille, je suis pas rémunéré, il y a personne qui est là. Mais des fois, il y a même personne dans le festival, hein. Et on a vraiment l'impression de perdre son temps. La seule consolation, c'est de rencontrer d'autres collègues, de faire des rencontres.
Et de faire des repas, et d'être logé par le festival.
Des fois, les repas sont vraiment très mauvais.
Bon, dans votre bande dessinée, un auteur de bande dessinée en trop, l'auteur finit par voler l'idée d'un jeune qui passait par là, le fils de la pharmacienne qu'il connaissait, et qui a eu la faiblesse de lui proposer ses dessins pour avoir la vie d'un dessinateur soi-disant installé. Ça, on est vraiment dans le plagiat. Ça existe vraiment? Vous avez eu affaire à ce genre d'histoire dans le milieu de la bande dessinée, Daniel Bancou?
Non, il y a une histoire que j'ai racontée à quelqu'un et après il en a fait un album et je crois qu'il s'est même pas rendu compte que c'était mon idée, mais c'est pas très grave parce que moi j'avais pas eu le temps de la faire, je l'ai pas faite. Bon, ben c'est lui qui l'a fait. J'ai pas eu de cas de plagiat comme ça.
Mais ça vous a inspiré cette histoire, cette bande dessinée?
Non, j'étais déjà en train de la faire quand ça a été publié.
Étienne Appert, vous avez lu la bande dessinée Daniel Bancou?
Oui, avec plaisir.
Vous êtes retrouvé dans cette comédie, parce que ça reste très comique.
Oui, bah, il vaut mieux en rire, mais oui, moi je connais bien les festivals, en particulier les festivals de province, où j'ai à côté de moi un auteur du coin qui a un succès fou, parce qu'il a décrit le petit village dans lequel les gens sont, et puis où les gens passent à côté de moi, ils regardent mon livre, puis ils disent « Ah oui, c'est moderne !» Et puis oui, ils passent sur la file d'à côté... Donc oui, la solitude de l'auteur dans le festival, j'ai connu ça. Oui.
Et en tant qu'auteur de bande dessinée, tous les deux, Daniel Bancou, Étienne Appert, le fait que cette année ait été décrétée année de la bande dessinée, qu'est-ce que cela vous inspire? Une opportunité pour essayer de faire avancer votre statut, hein, d'avoir un minimum de protection sociale, ou c'est juste une manière, vous vous dites, on va beaucoup parler de la bande dessinée, j'ai un peu plus de chance d'exposer mon travail? Daniel Bancou, pour commencer.
Ben moi, ça me fait doucement rigoler parce que ça fait quelques années qu'il y a des mesures qui sont prises qui font peser des charges de plus en plus lourdes sur les auteurs, sur le plan financier.
Concrètement ?
Ben c'est des cotisations qui augmentent. Parce que souvent, les gens pensent qu'on a un statut d'intermittent du spectacle. Alors que pas du tout. Hein. Dès qu'un contrat se termine, on n'a pas le droit au chômage, on touche rien et il faut qu'un contrat enchaîne. Et puis voilà, et puis là, le ministère décrète 2020 l'année de la bande dessinée. Et ce qui est un peu ironique, c'est que c'est, comme vous l'avez dit en introduction, c'est un marché qui se porte bien pour beaucoup d'acteurs de la chaîne du livre, sauf pour les auteurs en grande partie qui sont quand même à l'origine de la création. Donc c'est un peu ironique.
Comment y remédier? Est-ce que vous avez des idées, Étienne Appert? Est-ce que vous partagez cette analyse, enfin, de Daniel Bancou?
Comment y remédier? Moi, j'ai pas les solutions, mais par contre, on a un syndicat des auteurs qui fait un très bon boulot avec des gens qui sont vraiment, qui essaient vraiment de proposer des solutions. Donc, si l'année de la bande dessinée pouvait permettre de mettre autour de la table vraiment ce que demande le syndicat, en fait, mettre autour de la table les pouvoirs publics, les éditeurs, les auteurs et réfléchir à des solutions, il y aurait sûrement des choses qui en sortent. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est difficile d'obtenir vraiment une discussion, quoi, de bonne foi, où tous les acteurs chercheraient des solutions. Donc ça pourrait être une bonne chose pour l'année de la bande dessinée. Ouais. Déjà, voilà, si on pouvait créer les conditions du dialogue entre toutes les personnes qui réfléchissent à ces solutions, ce serait vraiment bien.
Dale Blanco ?
Moi, j'ai pas d'idée concrète, mais souvent, par exemple, on cite une proposition de Victor Hugo, qui serait que toutes les œuvres tombées dans le domaine public pourraient financer la création et la créative. Ça n'a jamais été appliqué, mais c'est des solutions qui sont intéressantes et on voit qu'il y a des idées qui émergent finalement de très loin.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Spécial festival d'Angoulême, festival international de la bande dessinée. Pourquoi tu dessines ? C'est la question que pose un gamin à un dessinateur au début du récit La rivière d'encre d'Étienne Appert, édité par la boîte à bulles. Une question simple qui nécessite d'emprunter ce que vous nommez la rivière d'encre, celle qui coule depuis le tout premier dessin de l'homme. 224 pages avec quelques invités d'exception. La légende veut que le premier dessinateur ait été une femme. C'est incroyable.
Absolument, absolument. C'est la version de Pline l'Ancien qui nous dit que le premier dessin, je trouve ça intéressant que le premier dessin, il est pas né de quelque chose d'anodin, c'est vraiment voilà, c'était une
c'est
femme,
l'amour.
C'était
et
l'amour,
ouais.
C'est l'amour, c'est la guerre, c'est un jeune garçon qui part à la guerre. Et,
alors racontez-nous justement cette histoire de la Grèce d'avant l'Antiquité d'ailleurs.
Oui, alors c'est voilà, ça date d'une période bien bien lointaine et l'idée que propose Pline l'Ancien, c'est que un jeune homme doit partir au front, doit partir à la guerre, et une jeune femme amoureuse en est très triste. Elle voudrait qu'il lui laisse une trace. Alors, il pense sûrement, Pline l'Ancien le précise pas, lui, dans sa version, mais il pense sûrement d'abord à se laisser une trace, comme le font les jeunes gens qui s'aiment. Ils s'aiment au bord du feu, et puis ça suffit pas à cette jeune femme. Elle cherche qu'est-ce que ce jeune homme pourrait lui laisser. À un moment, elle aperçoit sur le mur l'ombre du jeune homme qui se découpe, la silhouette qui se découpe en ombre. Elle a une idée, elle prend un bâton couvert de suie, et avec la pointe du bâton, elle va découper la silhouette de son amant, de son amoureux, dans la roche. Elle va accrocher son ombre sur le mur, et ça sera le premier dessin. Voilà, je trouve
quelle belle histoire. C'est une belle histoire, une belle légende. Daniel Bancou, vous la connaissiez, cette histoire?
Oui, oui, moi je trouve ça magnifique.
Rivière d'encre, c'est donc votre bande dessinée. Alors, je vais vous poser la question, mais pourquoi vous dessinez Étienne Appert?
J'ai essayé de répondre en 224 pages, et en fait, je sais toujours pas.
Ouais.
Et tant mieux, en fait. C'est vraiment un mystère. C'est qu'est-ce qui crée le désir, au fond? Qu'est-ce qui fait qu'un pommier donne des pommes? Qu'est-ce qui fait qu'un poirier donne des poires? Qu'est-ce qui fait qu'un dessinateur est poussé à dessiner? J'ai eu envie de transmettre quelque chose de l'énergie qui me pousse, mais heureusement, j'ai pas de réponse fermée.
Comment est née l'idée de cet album? Est-ce que cette question du gamin, elle part d'une situation vécue?
C'est mon enfant intérieur, quoi, celui qui, même si je lui ai donné les traits de mon fils, mais voilà.
Pourquoi on dessine? Est-ce pour laisser quelque chose dans l'au-delà, nous qui sommes tous mortels? Est-ce pour donner une forme à l'innommable? Est-ce que c'est aussi un acte d'amour?
Oui, c'est tout ça à la fois. C'est pour s'évader de sa prison. En fait, il se joue beaucoup de choses très très profondes. Bah, je crois que vous l'avez dit, moi j'ai essayé d'échapper au dessin dans une première partie de ma vie pendant 15 ans. Et puis au bout de 15 ans, j'ai réalisé non, c'est trop fort, j'ai envie de dessiner. Donc je me suis dit, c'était vraiment une question personnelle, moi, mais qu'est-ce qui se joue dans cet acte? Et qui rejoignait quand même une question universelle. Comment ça se fait depuis 44 000 ans, les êtres humains dessinent? Pourquoi, quoi? Qu'est-ce qui se joue dans ce moment-là, quoi? Un peu sacré, particulier.
Mais Étienne Appert, pour vous, c'est le dessin, la représentation, ou c'est aussi raconter une histoire en passant par le dessin, la bande dessinée?
Alors, vous avez raison. Moi, ma passion, c'est la bande dessinée. C'est vraiment l'écriture, je trouve, l'invention de la bande dessinée, quelque chose d'incroyable. La possibilité d'associer comme ça du texte et de l'image. Le dessin donne une forme nous donne accès à une forme d'écriture augmentée dont je trouve pas d'équivalent, quoi. J'ai la possibilité, avec un crayon, une feuille, de faire émerger des mondes stupéfiant, directement issu de mon monde intérieur. Et donc oui, ce langage-là, je le trouve formidable.
Et ces moments d'intérieur, ces visions intérieures que vous avez, vous réussissez tous les jours, à chaque fois, de les restituer par le dessin?
Ah ben pas toujours, hein. Je suis souvent pas très satisfait de ce que j'ai fait. Il y a vraiment beaucoup de travail, hein. C'est pour ça que ça prend des années pour faire un livre comme celui-là. Mais en tout cas, ce livre-là, il a ses limites, tout ça. Mais j'ai vraiment l'impression, oui, d'avoir pu transmettre les images que j'avais envie de transmettre. C'est vraiment satisfaisant.
Et pourquoi avoir invité, parce que là, c'est une bande dessinée d'un auteur qui invite deux autres auteurs, pas n'importe lesquels, Baudouin, Bouc. Est-ce pour bien préciser que c'est un peu vos repères en bande dessinée, ou c'est parce que ce sont deux auteurs que vous lisez et qui... C'était Bouc et Baudouin.
Oui, vraiment, il représentait pour moi deux pôles très importants pour moi dans la création. Baudouin, c'est quelqu'un qui vient vraiment, qui est un des inventeurs du roman graphique autobiographique, quoi, d'une forme d'écriture. Il n'a pas du tout été nourri par la bande dessinée franco-belge. Il vient de la littérature, du cinéma, de l'art contemporain, de la danse contemporaine. Donc il amène une liberté incroyable, quoi, une forme d'écriture d'une liberté incroyable. Et Bouc, il a à la fois, je sais pas qui je suis pour faire des commentaires sur des maîtres pareils, mais c'est un des grands maîtres de la bande dessinée, qui maîtrise à la fois la grammaire de la bande dessinée classique d'une façon parfaite, et qui en même temps à l'intérieur a une liberté complètement folle, quoi. Donc c'est deux pôles très forts pour moi, Bouc et Baudouin, très différents mais très forts.
On a parlé de vos dessins, de votre pratique de dessin, et s'il fallait terminer cette émission avec votre pratique de lecture de bande dessinée, est-ce que le plaisir que vous aviez enfant, parce qu'en tant que dessinateur, vous avez perpétué ce plaisir qu'on a tous quand on est enfant, est-ce que pour la lecture de la bande dessinée, ça continue ce plaisir? Est-ce que vous avez toujours autant de plaisir à lire de la bande dessinée, Daniel Blancou?
Ah oui, j'ai énormément de plaisir, et puis des fois aussi, on parlait des festivals, je rencontre un auteur, on sympathise, j'ai aussi envie de lire sa production, ça me donne un nouveau regard dessus. Ouais.
Je vous pose la même question, Étienne Appert, est-ce que ce plaisir de lire de la bande dessinée est toujours aussi présent, ou est-ce que au dessin, quand on devient auteur de bande dessinée, on s'éloigne un peu de ce plaisir de lire, de découvrir, non?
Ah, j'ai toujours autant de plaisir à en lire. Après, je suis assez critique parfois, parce que je sens que c'est un art difficile, en fait, la bande dessinée. Mm-hmm.
Dernier coup de cœur, donc, pour vous?
Bah, ce serait Edmond Baudouin, la Traverse. Donc voilà, quelle grâce dans son trait, quelle beauté. Voilà.
Et enfin, Daniel Blancou?
Pour moi aussi, Edmond Baudouin, c'est une référence depuis l'adolescence. Et en fait, j'ai aussi plaisir à me replonger dans des vieilles lectures. Et récemment, je relisais Chaland. Voilà.
Très bonne initiative, d'autant plus que c'est une année anniversaire de sa disparition.
Voilà.
Si vous êtes à Angoulême, vous pouvez croiser nos invités de ce matin, Daniel Blancou et Étienne Appert. Et sinon, leurs bandes dessinées sont dans toutes les bonnes librairies. Un auteur de BD, entre autres, de Daniel Blancou aux éditions Sarbacane, et Rivière d'encre d'Étienne Appert, édité par La Boîte à Bulles. Merci beaucoup d'être passé ce matin.
Merci à vous.
Merci.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr, et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Si j'avais traité ça d'une manière traditionnelle, je pense qu'en bande dessinée, ça aurait rempli l'équivalent peut-être d'une dizaine de pages. Donc il aurait fallu l'insérer dans un autre ensemble, alors que je voulais que cette histoire ait sa maison à elle, son livre. Donc c'est pour cette raison que je l'ai dilaté d'une certaine manière, en laissant plus de place aux images et en laissant aussi, je pense, la capacité à certains mots de résonner dans le seul dans une double page, par exemple. Il est évident que quand on prend un mot et qu'on le met dans une double page tout seul, qui est un privilège qui est réservé soit à la bande dessinée, soit à la poésie, généralement, on lui donne un relief, je pense, qu'il n'a pas s'il est une patte de mouche parmi d'autres dans une page de roman.
Là, on vient d'écouter Emmanuel Guibert, le Grand Prix d'Angoulême 2020. Nous serons donc au Festival d'Angoulême tout ce week-end. Et pour commenter ce Grand Prix 2020, Victor Massé-Lipinet invite Benoît Peters et Jean-Christophe Menu dans son rayon BD. C'est le dimanche après-midi sur France Culture à 15h30. Passez d'excellents moments avec nous et nous, on se retrouve lundi.